Vous êtes sur RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Olivier Bois, bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Soir. À la une, on va entendre et écouter, tiens, des gens heureux, ça y est, les vacances sont là. Pour les Aoussiens, on sera dans un instant en gare de Lyon, déjà très chargé. Vous serez 1 million de Français au moins à vous croiser dans les gares ce week-end. Une pensée d'ailleurs pour ceux qui rentrent de congé, hein. Courage, ça n'est pas le moment évidemment le plus agréable. On fera un point sur vos conditions de circulation. Là encore, c'est déjà chargé sur les routes, mais ce sera pire demain puisque la journée est noire dans le sens des départs. Et dans le ciel, alors, pour ce premier week-end entre juillet et août. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Essayons de le prendre par le bon côté, si j'ose dire, ça ne sera pas la canicule globalement dans les voitures.
Alors, globalement, oui, mais alors, plus on va descendre près de la Méditerranée, plus le mercure va grimper. On atteindra quand même encore 32 degrés à Marseille demain après-midi. À Pau, il n'en fera que 18, 23 degrés pour Paris, Poitiers, Beauvais ou encore Dijon. Un ciel globalement assez chargé sur les routes, y compris près de la Méditerranée d'ailleurs, où on attend quelques averses dans l'après-midi. Le gros des orages ira surtout des Pyrénées au Massif central et aux Alpes, et partout ailleurs un fabuleux, merveilleux régime d'averses tel qu'on le connaît depuis déjà tout le début de l'année presque, je dirais.
Merci beaucoup si j'ose dire, façon de parler Valérie Quintin. Dans le reste de l'actualité, on parlera du prix de nos fruits et légumes. Famille Rurale, comme tous les ans, publie son observatoire. Malgré l'impression qu'on peut avoir, les prix sont plutôt à la baisse sur un an, sauf pour les cerises et les abricots. Les producteurs, on le sait, ont été très pénalisés par les conditions météo de la fin du printemps. On en parlera donc avec le président de Famille Rurale, Dominique Marmier. Il est l'invité d'RTL Soir tout à l'heure à 18h15. Face au Covid, la Réunion et la Martinique se reconfinent partiellement dès ce week-end. La situation s'aggrave là-bas, notamment dans les hôpitaux. Et une étude vient par ailleurs confirmer que 85% des personnes actuellement hospitalisées en France ne sont pas vaccinées, alors que l'épidémie continue de flamber, notamment chez les jeunes. Et puis à Tokyo, vous entendrez dans ce journal Teddy Riner, qui a dû se contenter de la médaille de bronze en judo. Il positive malgré tout, malgré sa grande déception. Rendez-vous comme tous les soirs évidemment, 18h30, 19h. On refait les jeux avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Voilà pour le programme de ce RTL Soir. Merci d'être avec nous.
RTL Soir.
Eh oui, personne ne peut y échapper. Avant d'être vraiment en vacances, avant de profiter de la mer, de la montagne ou que sais-je encore, il faut faire le trajet. C'est comme ça. Le week-end entre juillet et août, c'est le moment le plus chargé de l'année. Sur la route, évidemment, on y revient dans un instant. Et dans les gares, je vous le disais, vous serez 1 million à peu près à vous croiser ce week-end. Arnaud Touche, gare de Lyon d'ailleurs, la course a déjà commencé, mais avec le sourire pour ceux qui partent, évidemment. Reportage.
Telle une ruche dans le hall 2 de la gare de Lyon, des groupes de jeunes, des seniors, mais aussi des familles tentent de se frayer un chemin vers les quais. Direction les vacances. Maïwen, 14 ans, part à Cannes.
Vous avez quoi dans les bras là ?
J'ai un sac de transport contenant un chat.
Comment il s'appelle le chat ?
Réa.
Et il part avec vous ?
Oui, on ne peut pas la laisser à la maison.
La famille est donc au complet.
Eh ben oui, chat compris, comme chaque année, ouais.
Séverine, la maman, comptait les jours avant ce départ.
Alors là, c'est plage, soleil, repos, loin de la vie parisienne, en fait.
Ça va faire du bien, j'imagine. Vous, ça fait combien de temps que vous attendez ces vacances ?
Alors moi, ça fait très longtemps, puisqu'en avril, on n'a pas pu partir. Donc non, c'est un peu la bouffée d'air, franchement.
Et c'est un peu le sentiment de beaucoup de voyageurs en gare aujourd'hui, comme pour Muriel, qui part pour une semaine à Briançon, dans les Hautes-Alpes.
Plus d'un an. Voilà, parce que mes autres vacances ont été annulées en février et puis en avril aussi, quoi.
Et tout ce week-end, les allers-retours des TGV vont se succéder à un rythme très soutenu. Détail Christophe Fanichet, le directeur de SNCF Voyageurs.
Et ici, en gare de Lyon, ça sera plus de 330 000 voyageurs qui vont prendre ou arriver dans cette gare de Lyon.
Les Français ont d'ailleurs plébiscité le train en ce mois de juillet. La compagnie ferroviaire a transporté 10 millions de voyageurs ce mois-ci.
Reportage d'Arnaud Touche, gare de Lyon. On le rappelle, le pass sanitaire n'est pas encore obligatoire. Il commencera à l'être dans les trains à partir du 9 août. Alors sur les routes maintenant. Bonsoir Louis Augry, on suit la situation avec vous. Ça commence à se charger d'ailleurs dès ce soir.
Oui, ça continue de se remplir sur les routes. On frôle les 1000 km de bouchons sur le territoire. Mais c'est assez localisé. Hein. Vous devez encore faire preuve de patience si vous roulez entre la vallée du Rhône et la région PACA. Vous êtes au ralenti entre Lyon et Marseille sur l'A7 et dans les deux sens de circulation. Mettez le pied sur le frein également sur la 9 en direction d'Avignon. Et puis vous êtes très nombreux à avoir pris la route des vacances en fin de journée vers le sud-ouest. C'est toujours aussi compliqué au niveau de Tours. Une seule voie est ouverte à la suite d'un incendie de poids lourd qui est survenu en début d'après-midi. Prenez la sortie 18 après Blois pour éviter ces gros bouchons. En revanche, faites attention si vous parvenez à reprendre la 10 par la suite vers Bordeaux. Sachez qu'un accident au kilomètre 400 au sud de Niort est en train de créer un gros ralentissement. Prudence donc en cette fin d'après-midi. après-midi sur la route des vacances.
Merci beaucoup Louis Augry, on vous retrouve tout au long du week-end pour faire le point sur les conditions de circulation puisque la journée est noire, hein, je vous le rappelle, dans le sens des départs. Il est 18h05 sur RTL. L'un de vos plaisirs de l'été et des vacances, c'est peut-être de prendre le temps de faire le marché avec plus de temps justement pour cuisiner, pour partager des repas en famille et entre amis. Mais cette année, on l'a beaucoup entendu, certains prix se sont envolés, notamment les abricots ou les cerises, hein, puisque les récoltes en France ont été largement amputées par le gel du mois d'avril et ensuite par les pluies importantes. C'est ce que vous avez constaté sur ce marché à Nancy, Dimitri Ramelot.
Oui, sur l'immense étal de 300 variétés, certains prix s'envolent. 4 euros le kilo de tomates, 6,95 les abricots, 8 euros les cerises. Tous de saison, pas de questions à se poser pour Julien. Rares sont les produits qui ont augmenté. Alors à budget égal, il achète un peu moins, mais il se fait plaisir.
Non, j'ai pas l'impression que les prix aient flambé. J'achète ce dont j'ai envie. Ben là, j'avais envie d'abricots, j'achète des abricots. Du moment que les choses sont belles et bonnes, ça me convient. Oui, je me fais plaisir avant de regarder le prix. Hein.
Et le gérant, qui ne propose que très peu de produits étrangers, est occupé à ranger les salades livrées de Toul à 30 km. Aucune augmentation de prix depuis plus de 2 ans, sauf sur les produits qui ont subi gel, pluie ou maladie depuis plusieurs semaines.
Tout ce qui est fruits et noyaux qui est cher. Nous, on prend notre marche comme d'habitude, hein, c'est pas nous qu'on se gave. Hein. Non, la légume, non, c'est toujours le même prix, non, légume, non. Et sur la tomate, là, le millou, il y a ça, on va voir. Il y en a qui me le disent, les pêches, c'est un peu cher. Alors je lui ai dit, prenez-en moins.
Et le patron de constater que très peu de clients se dirigent actuellement vers les produits de saison, non pas à cause des prix qui auraient augmenté suite à une météo capricieuse, mais de cette même météo qui ne donne pas une folle envie de croquer dans une pêche ou un abricot juteux.
Merci, reportage de Dimitri Ramelot à Nancy. On fera le point donc à 18h15 sur le prix des fruits et légumes. Comme tous les ans, Famille Rurale publie son observatoire de l'année. Son président Dominique Marmier est l'invité d'RTL Soir dans une dizaine de minutes.
RTL Soir, Olivier Bois.
La situation sanitaire s'aggrave en Martinique et à La Réunion. Face à la saturation dans les hôpitaux, les autorités reconfinent dès ce week-end. Reconfinement partiel en journée et couvre-feu plus strict le soir. En Martinique d'ailleurs, où 3 premiers patients vont devoir être transférés très vite en métropole pour être soignés. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
En Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, le taux de vaccination est assez faible. Et les dernières études le montrent d'ailleurs. Actuellement, dans les hôpitaux français, l'immense majorité des nouveaux patients ne sont pas vaccinés.
Oui, 85% exactement, selon une première étude qui confirme ce que les médecins observent depuis des semaines sur le terrain. 85% des patients hospitalisés entre fin mai et mi-juillet, que ce soit dans les services Covid ou en réanimation, n'avaient reçu aucune dose. Chiffre qui prouve que la vaccination protège efficacement des formes graves de la maladie. Résultat sans appel également concernant le risque de mourir. Parmi les quelques 926 malades décédés pendant cette période, toujours dans les hôpitaux, 720 n'étaient pas vaccinés.
Alors avant d'espérer que la vaccination freine l'épidémie, Santé publique France le rappelle aujourd'hui, il nous faut à nouveau être plus vigilants sur les gestes barrières.
Oui, parce que plus les semaines passent et plus les Français, notamment les hommes et les jeunes, les 20-35 ans, sont quelque peu négligents. Aujourd'hui, par exemple, ils sont 6 sur 10 seulement à éviter les embrassades et le fait de se serrer la main. À l'automne dernier, ils étaient 8 sur 10. Même comportement pour le lavage régulier des mains, respecté par 60% de la population. C'est 10% de moins que lors du deuxième confinement. Enfin, un gros tiers des Français assure qu'ils se tiennent à l'écart des réunions, en face à face avec des proches. On était à plus de 40% à la mi-mai.
Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. L'économie française a renoué avec la croissance au deuxième trimestre avec une hausse de 0,9% du produit intérieur brut. Plutôt de bon augure pour tenter d'atteindre les 6%, ce qui est l'objectif visé par le gouvernement à la fin de l'année. On va faire une pause dans un instant. Un nouveau braquage en plein Paris. Les deux suspects armés sont repartis avec 400 000 euros de bijoux. Il n'y a pas eu de blessés. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Libération.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et à 18h10, la suite de votre journal et donc ce nouveau braquage aujourd'hui en plein Paris, dans le 4e arrondissement, rue Vieille du Temple précisément. Et c'est encore une bijouterie comme sur les Champs-Elysées qui a été visée par deux hommes, Guillaume Chiez.
Oui, en plein jour, juste avant la pause déjeuner, les deux braqueurs habillés en tenue décontractée, lunettes de soleil sur les yeux, sont entrés dans la bijouterie de façon très calme. Ils ont exigé de se faire remettre à la caisse et une partie des stocks pour être pris au sérieux. Ils ont sorti une bombe lacrymogène et un un pistolet à impulsion électrique qu'ils n'ont pas utilisé. Pas de violence, un braquage ultra rapide et un butin estimé à 400 000 euros entre les bijoux et l'argent liquide. C'est la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui est chargée de l'enquête, les mêmes qui s'étaient occupés du braquage de la bijouterie Chaumet mardi dernier. Et comme il y a trois jours, les enquêteurs sont déjà en train de tenter de remonter le parcours de fuite des deux braqueurs via les caméras de vidéosurveillance de la ville de Paris. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient identifié le braqueur de la bijouterie Chaumet et étaient parvenus à l'interpeller en moins de 24 heures.
Oui, dès le lendemain, ils étaient en train de fuir en car direction la Moselle, si je me souviens bien, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume Chel, du service police-justice d'RTL. Allez, on va partir à Tokyo.
RTL à Tokyo.
Alors la journée à Tokyo, elle a été marquée bien sûr par cette médaille de bronze pour Teddy Riner chez les lourds en judo, même s'il rêvait d'une troisième médaille d'or consécutive. Il a donc échoué en quart de finale, surpris après une petite erreur par le russe Bachaïev, qui est tout de même l'actuel numéro 1 mondial. Teddy Riner qui a réussi ensuite à se remobiliser pour aller donc décrocher le bronze. On l'écoute.
Très satisfait et très fier. Parce que ça a été très difficile cette Olympiade. 5 ans, le Covid comme tout le monde le sait. Ces jeux qui n'étaient jusqu'à un mois peut-être pas prévus. Et puis moi, à 3 mois des jeux, j'ai eu 2 blessures. Donc cette médaille, je suis hyper fier. Alors ouais, c'est pas l'or. Et moi du coup, pour avoir préparé ces Jeux Olympiques, pour avoir donné le meilleur de moi-même, je n'ai aucun regret. Puisque je sais que j'ai fait le taf. Quand je vais me coucher en regardant cette médaille de bronze, non, je vais être très fier et très content. Ce que j'ai hâte maintenant, c'est de rentrer voir ma famille et fêter cette médaille. Celle-là, je sais pas, elle a la même saveur qu'une médaille d'or. Je suis hyper, hyper content.
Voilà Teddy Riner qui a fait plus que relativiser. Il répondait à Jean-Michel Rascol et Marie Portolano. Entretien complet d'ailleurs à retrouver à partir de 18h30 dans l'émission. On refait les jeux. La deuxième médaille du jour, elle était en judo également et en bronze aussi pour Roman Dico chez les plus de 78 kilos. Bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors à part ces deux médailles, la journée a été assez cauchemardesque pour la délégation bleue.
Si je devais hiérarchiser l'échec aujourd'hui, je mettrais en numéro 1 le BMX. 3 Français en finale, dont un double champion du monde de la spécialité, Joris Daudet, qui a chuté, une finaliste avec Axel Etienne, mais c'est bien un 0 pointé à la fin pour le BMX. L'autre raté XXL de la journée, c'est en escrime. L'équipe de France d'épée perd d'entrée contre le Japon. Dans ce relais, il y avait notamment Romain Cannon en or en début de semaine et Yannick Borel, champion du monde en 2018. L'équipe d'épée était triple tenante du titre, invaincue aux Jeux Olympiques depuis l'an 2000. Depuis 21 ans, et bien cette série s'est terminée ce matin. Chapeau les artistes.
Bon, Quentin, quelques motifs de satisfaction ou d'espoir en tout cas?
Le retour gagnant de Florent Malodou sur 50 mètres, deuxième temps des séries en 21-65 et qualifié pour les demi-finales. La victoire du hand masculin, 36-31 contre l'Espagne. Le basket féminin, le volley qui se réveille. Victoire 87-62 des joueuses de Valérie Garnier. Les volleyeurs s'imposent 3-7-1 contre la Russie. Une chance de médaille en rugby à 7. L'équipe de France est en demi-finale. Rendez-vous la nuit prochaine à 4h30 contre la Grande-Bretagne. Et un mot sur Novak Djokovic, ultra dominateur pendant une heure. Le Serbe finit par s'incliner en demi-finale contre Zverev en 3-7. Pas de Golden Schlem pour le numéro 1 mondial. Pas de Grand Schlem les 4, ni de Jeux Olympiques dans la même année.
Merci beaucoup Quentin Vasselin. À tout à l'heure également à 18h30. Donc dans On refait les Jeux. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh bien, l'audace paye pour les jeunes, parfois qui cherchent du travail. Exemple à Toulouse avec cette jeune femme, Kim Thébault, étudiante en première année de master. Elle ne trouvait pas d'entreprise pour son alternance. Eh bien, elle a placardé sa candidature directement sur les murs de la ville et elle a décroché plusieurs entretiens. Benjamin Pelsi.
Le visage souriant, la pose fière, le logo de la région Occitanie et un slogan « Osez partager ». Kim Thébault a tout de la parfaite candidate aux élections régionales, mais non, elle ne cherche pas à être élue, mais à travailler.
Je trouve que c'est assez difficile de trouver une alternance. Je l'ai senti arriver par la crise du Covid, où je me suis dit « il faut même pas réfléchir, là il faut faire les choses à fond ».
D'autant qu'à 26 ans, engager Kim coûte cher à un employeur. Alors pour maximiser ses chances de recrutement, elle a calculé les emplacements de ses 6 affiches.
J'ai visé les endroits stratégiques où pouvaient se situer des entreprises à qui je m'intéressais. Je visais Toulouse Métropole, je visais des entreprises dans le tourisme, dans la culture, des agences, les employeurs. Personne n'a vu l'affiche, mais c'est pas grave puisque ça a quand même fait parler. Et...
C'est plus les relais médiatiques que vous avez eus après qui vous ont permis d'avoir des entretiens d'embauche.
Exactement. Voilà, j'ai eu plusieurs entretiens grâce à cette candidature originale, on va dire, et j'attends déjà plusieurs réponses.
Et dans son master communication, sa démarche a fait des émules.
Tout le monde m'a félicité en me disant que c'est une très bonne idée. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça les avait inspirés pour faire quelque chose d'original.
Kim espère maintenant que sa nouvelle alternance ne se fasse pas comme l'année dernière en télétravail.
Merci beaucoup Benjamin Pelsi. On va faire une pause sur RTL. Dans un instant, l'invité d'RTL Soir est Dominique Marmier. Il est le président de la Fédération Nationale Famille Rurale et il publie comme tous les ans son observatoire du prix des fruits et légumes. Certains se sont envolés par exemple comme les cerises ou les abricots, mais sinon les prix sont plutôt à la baisse, on verra ça avec lui. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois. RTL Soir, Olivier Bois.
Et l'invité d'RTL Soir est Dominique Marmier, président de la Fédération Nationale Famille Rurale. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez publié aujourd'hui, et votre organisme a publié, votre observatoire des fruits et légumes, comme tous les ans. Vous avez entendu avec nous le reportage à 18h sur un marché à Nancy, avec l'impression de certains consommateurs, on l'a beaucoup entendu, que les prix, notamment des fruits de saison d'été, avaient augmenté. Et pourtant, votre observatoire parle d'une baisse globale des prix des fruits et légumes cette année.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est une baisse en moyenne de moins 8% qu'on constate sur les fruits et légumes. Alors bien sûr, sur les fruits, c'est moins 4% de baisse. Et puis sur les légumes, c'est moins 11,5% de baisse. Donc c'est une baisse quand même significative. Si toutefois, on ne tient pas compte des cerises hein, qui ont connu une très forte hausse hein, due au coût de gel notamment, et des abricots dans une moindre mesure. Mais sinon, à part ces deux fruits-là, c'est quand même une forte baisse, c'est quand même très important.
Rappelez-nous sur un panel de combien de fruits et légumes ?
Eh ben, on a un panel de 10 légumes et puis de 8 fruits quand même, donc c'est significatif. Ce sont des fruits et des légumes de consommation courante que chacun d'entre nous a l'habitude d'acheter très fréquemment.
Par exemple, vous avez quel légume qui est resté stable ou qui est à la baisse et comment est-ce qu'on l'explique ?
Ben, c'est vrai qu'il y a toujours des grandes disparités. Hein. Quand on parle d'une moyenne, elle cache un peu des grandes différences. C'est vrai que pour les légumes, c'est quasiment tous qui sont orientés quand même à la baisse, avec des baisses de moins 22% pour le haricot vert, par exemple. La tomate, c'est moins 22%. Le poivron, c'est moins 17%. Toutefois, une exception, c'est vraiment le haricot vert par rapport à le haricot vert bio, qui lui monte de 41%. Donc là, on n'a pas la raison vraiment objective de cette augmentation, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et puis pour les fruits, c'est exactement pareil. Hein. Ils sont tous orientés à la baisse, à part, comme je vous ai dit, la cerise qui est quasiment doublée parce que la production a été très très affectée par le coût de gel. Par contre, c'est la pomme qui augmente très légèrement de plus 9%. Et puis les abricots également qui ont été aussi qu'ont subi les aléas climatiques avec une augmentation de plus 18%. Mais généralement, que ce soit le melon, que ce soit les pêches, etc., le citron, la pastèque, ils sont tous orientés à la baisse.
L'été, c'est le moment où on peut avoir plus de temps pour faire le marché, pour être plus attentif ou pour prendre le temps de faire ses courses et de préparer un peu des repas un peu plus élaborés. Quel conseil vous pouvez donner aux consommateurs justement pour essayer de faire les meilleures affaires? Faut comparer, faut regarder, il y a toujours des différences.
Bah voilà, on appelle à bien sûr être très vigilant. Nous, le principal conseil, c'est bien sûr toujours le même hein, qu'on donne depuis quelques années maintenant, c'est d'acheter des produits de saison. Parce que quand on achète des produits de saison, bien sûr, le pic de production, il y a toujours une baisse des coûts qui est quand même très importante. Et ce qu'on appelle aussi, c'est bien sûr l'ensemble de des déménages, c'est-à-dire à respecter les consignes de l'Office mondial de la santé, c'est-à-dire de respecter les préconisations, à savoir de consommer donc 5 fruits et légumes par jour. Et malheureusement, c'est un impact.
On en est loin, je lisais les chiffres que vous publiez, l'objectif est très loin d'être atteint.
Il est loin d'être atteint parce que justement, suivre ces préconisations, c'est un certain budget. Hein. On a fait le calcul hein, pour une famille de 4 personnes. Si on veut acheter des produits, des 5 fruits et légumes en question, c'est quand même 100 € par mois pour une famille de 4 personnes. Et si on veut les consommer en bio, ça va jusqu'à 200 € par mois pour une famille. Donc on voit bien que les ménages qui ont des revenus faibles n'ont pas la possibilité justement de consommer 5 fruits et légumes frais par jour. Voilà, donc c'est quand même un problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on alerte les pouvoirs publics à mettre en place une campagne de communication importante pour sensibiliser les familles justement à consommer ces fruits et ces légumes, et surtout avec une aide alimentaire qu'on pourrait appeler un chèque fruits et légumes qui permettent à chaque famille d'avoir accès justement à la consommation de fruits et de légumes frais.
Et c'est l'une de vos grandes demandes, ça. Le dossier avance là-dessus, votre demande de chèque alimentaire pour les fruits et légumes ?
Oui, nous, c'est une demande qu'on fait depuis quelques années maintenant, parce que derrière la consommation des fruits et des légumes, vous l'avez bien compris, hein, il y a des enjeux de santé. Et la santé, c'est le bien le plus cher. Donc, oui, pour agir dans la prévention, il est important que les familles consomment ces fruits et légumes. Et là, on s'aperçoit que de plus en plus, justement, d'organismes, de politiques, justement, s'approprient ce sujet. Et le débat, donc, avance, il avance même plutôt vite. Comme on a le même principe pour le logement, quand on part du principe que chaque concitoyen doit avoir accès à un logement digne de ce nom, eh ben il est primordial que chaque concitoyen ait accès à une consommation saine, parce qu'il y a des enjeux de santé derrière, et puis donc d'avoir accès à une consommation de fruits et légumes frais.
Merci beaucoup, merci Dominique Marmier d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le président de Famille Rurale. À bientôt sur RTL. On va faire une pause à 18h23 et dans un instant, on retrouve Isabelle Morini-Bosque et ses conseils télé. À tout de suite.
RTL Soir. Olivier Bois. RTL Soir, Olivier Bois.
Et on vous retrouve, comme tous les soirs, Isabelle Morini-Bosque. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir tout le monde.
À la télé ce soir, dites-moi d'abord, rassurez-moi, on peut toujours revoir l'intégrale de Kaamelott sur Salto.
Oh là, et comment ? 6 saisons, vous vous souvenez du nombre d'épisodes ?
458, vous me l'avez dit la semaine dernière. C'est ça ? J'ai une bonne mémoire.
Je suis contente que vous m'écoutiez.
Je me fais des compliments.
Alors, qui dit mieux, qui dit plus ? Alors, je vous ai passé l'autre jour un extrait avec le chevalier crétin Perceval, mais moi... Mon chouchou toute catégorie, c'est le beau-père du roi Arthur, Léo Daguin, joué par Lionel Astier, le père d'Alexandre, toujours en guerre contre son roi et contre sa femme, petit florilège.
Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin.
Alors quand je rentre de la taverne à quatre pattes, vous tapez les crises à rallonge et ce soir, tout d'un coup, on picole.
Je me comprends.
Ah bah, je sais pas comment vous faites. Des engins comme vous seraient fournis avec une notice.
On dirait que rien vous fait peur, ni les barbares, ni les dragons, ni les monstres.
Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses.
J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier.
Ben vraiment, tant que vous n'obligez pas à les manger.
Non mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques.
Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Hein.
Moi j'adore Léo Daguin. Alors il y a aussi sur Salto Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Génial épisode ce soir sur la 2. C'est la seule adaptation acceptée par l'héritier de la Reine du Crime. C'est-à-dire que c'est la seule où il a accepté et le changement de personnage et le changement d'époque, veillant et surveillant tout en amont au départ. Ce soir, c'est tiré du premier polar de la romancière, avec toujours notre commissaire Laurent Samuel Labarthe, qui déteste et sa mère et les anniversaires, en tout cas les siens.
Allô ? Si, tu me déranges. Moi qui croyais que ma naissance avait été le pire jour de ta vie, c'est quand j'étais enfant, ma chère mère, qu'il fallait me fêter mon anniversaire. Maintenant, je m'en passe très bien. Oh non, non, je suis ravi de vieillir, au contraire. Oui. J'ai dépassé les questions futiles pour me concentrer uniquement sur l'essentiel, dont tu ne fais plus partie. Voilà.
Voilà donc pour Agatha Christie. Faites-nous donc écouter Joe Dassin un petit peu, Isabelle.
Ah, vous aimez ?
Oui, j'adore Joe Dassin.
Moi, j'adore Joe Dassin. C'est 300 cœurs chantant Joe Dassin ce soir sur la 3. J'aime Dassin, sa voix, ses textes, son intelligence. Il devait tout à Monique Lemarcy, ancienne directrice artistique de RTL. Ce soir, il est revisité par des artistes d'aujourd'hui. Faut être franc, c'est inégal, mais ça se prend. Alors, comme j'avoue en avoir un peu assez des Champs-Élysées et de l'été indien avec les aquarelles de Marie Laurencin, j'ai choisi celle que j'aime, moi. Et tant pis si c'est lui qui les chante quand même le mieux. On commence par Patrick Bruel.
Ça va pas changer le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleut pas toujours sur l'ombre.
Et c'est au tour de Claudio Capeo sur un tube que j'adore. Faudrait juste que les cœurs soient un tout petit peu moins forts.
On s'est étrangers qui tombent. Tout simplement sans penser à demain.
Joli moment aussi entre Chimène Badi et Joe Dassin, c'est virtuel et vertueux.
And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with fingers, sing my life with
words. Il y a aussi Louane et Boulevard Désert.
Cécilia, ton lit est trop dur, pourtant. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on
Et l'équipe à Jojo, qui c'est qui la chante? Eh ben les Kids United.
L'allumette, une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipe à Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout.
Et on termine avec Amaury Vassili avec une chanson trop méconnue que j'adore également.
C'est la vie, Lily, quand tu vas dans les rues de la ville, que tu es belle.
Je la connaissais pas, celle-là, c'est laquelle ?
Passe le temps, passe dans tes yeux, devant ta glace, c'est la vie, Lily.
La vie, Lily, elle est magnifique. Merci beaucoup Isabelle, on a entendu du Joe Dassin pour le coup.
Ça m'a fait plaisir de l'écouter avec vous. Et puis, bah, moi, je vous revois le 23 août.
Oui, c'était votre dernière de l'été avec nous, dans c'est... RTL Soir.
Je dis pas ça comme une menace, oui, c'était ma dernière de l'été. Et bien... Je vais revenir avec la 16e saison de L'Amour est dans le Pré, quasiment.
Ah, tout un programme. Voir. Ça commence en septembre ?
La date n'est pas encore définie, mais c'est dans ces eaux-là, oui. On va battre la campagne, vous allez voir, c'est formidable.
Et on vous retrouve à partir du 23 août, à partir de la rentrée sur RTL. Très bonnes vacances à vous, Isabelle. Il est 18h30 sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
L'essentiel de l'actualité, d'abord cette médaille de bronze pour Teddy Riner en judo chez les poids lourds. Il a dû s'incliner, vous le savez, en quart de finale contre le russe Bachaïev. Mais il était satisfait tout de même, fier même de cette médaille de bronze après tous les pépins qu'il a connus pendant sa préparation. Entretien à suivre avec Teddy Riner, avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol dans On refait les jeux, juste après la météo. Autre médaille aujourd'hui, de bronze également pour la judoka Roman Dico chez les plus de 78 kilos. A noter également la victoire de nos handballeurs face à l'Espagne 36-31 et de nos basketteuses face au Nigeria 87-62. Et puis Florent Manodou en natation s'est qualifié pour les demi-finales du 50 mètres nage libre. Il a même fait son meilleur temps de la saison, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Et puis un mot de tennis, Novak Djokovic a été éliminé par l'Allemand Alexandre Zverev. Le numéro 1 mondial ne sera donc pas champion olympique, ce qui était l'un de ses rêves. C'est un week-end de grand départ en vacances. La journée est classée noire demain matin. Bonsoir Louis Augry.
Bonsoir.
Mais c'est déjà chargé ce soir sur les routes.
Oui, parce que malgré une petite baisse, il y a toujours plus de 800 km de bouchons sur les routes françaises. Des bouchons très localisés en direction du sud-ouest surtout. C'est toujours très compliqué au niveau de Tours. Une voie ouverte seulement sur la 10 à ce niveau-là. Prenez la sortie 18 après Blois pour éviter ces gros bouchons. Vous roulez également au ralenti au niveau de Niort en direction de Bordeaux. Un accident a été signalé au kilomètre 400. Et puis vous devez faire preuve de patience si vous roulez dans la vallée du Rhône. Vous êtes au ralenti entre Lyon et Marseille sur la 7, direction le sud-est ou le sud-ouest. Donc il faudra rester prudent au volant et surtout patient.
Merci beaucoup Louis Augry. Ce sera également chargé dans les gares. Un million de voyageurs vont se croiser pendant ce fameux week-end de chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. La situation sanitaire s'aggrave en Martinique et à La Réunion notamment. Les deux territoires vont être reconfinés dès ce week-end, partiellement en journée. Il y aura un couvre-feu plus strict le soir en Martinique où les hôpitaux sont débordés. Trois patients devraient d'ailleurs être transférés dans les toutes prochaines heures en métropole pour y être soignés. D'une manière générale, une étude aujourd'hui montre que 85% des nouveaux patients soignés dans les hôpitaux, y compris dans les services de réanimation, ne sont pas vaccinés. Et puis il y a eu un nouveau braquage aujourd'hui en plein Paris. Deux hommes ont attaqué une bijouterie dans le 4e arrondissement. Ils étaient armés notamment de tasers. Le butin en bijoux et en argent liquide est estimé à 400 000 euros. La météo, rebonsoir Valérie Quintin.
Rebonsoir.
Week-end donc plutôt maussade et frais au programme.
Oui, comme ça tout y est, c'est presque l'automne, on y arrive en tout cas. On va avoir un ciel chargé demain pratiquement partout. Alors en matinée quand même, le pourtour méditerranéen va profiter de très belles éclaircies, mais peu à peu ça tournera à l'orage dans l'après-midi. Alors vraiment, sur les bords de la Méditerranée, ce seront des averses, mais dans l'arrière-pays et bien sûr sur les hauteurs ensuite des Alpes, du Massif central et au débordant vers les Pyrénées, là ce seront des orages attendus donc demain après-midi et demain soir. Partout ailleurs, un régime d'averses, des averses peut-être un petit peu moins fréquente quand même sur le Grand Est. Reste que les températures seront à peu près dans le même état qu'aujourd'hui, comprises entre 11 et 21 degrés de Brive à Toulon au réveil. Comptez 17 à 32 en journée, 19 à Lorient, 21 à Nantes, à Biarritz, à Bordeaux, 22 à Lille, 23 pour Paris, 25 à Lyon et Colmar, 30 encore à Bastia et Montpellier. Quant à dimanche, on va retrouver le soleil dans le midi avec beaucoup de vent. Mistral et Tramontane vont souffler assez fort. Partout ailleurs, on garde nos nuages, on garde nos averses et cerise sur le gâteau, les températures vont baisser.
Ah,
dimanche, 21 degrés de moyenne pour la moitié nord, 24 pour la moitié sud.
Et pour le début de semaine, alors, ça ne s'arrange pas apparemment.
Mais pour
plus.
Toute la semaine, en fait. Là, je vous parle jusqu'à vendredi inclus.
Non, on ne peut pas savoir.
Des dégradations orageuses successives, je vous le dis quand même. D'ouest en est, toujours un peu plus de soleil quand même sur les bords de la Méditerranée. Des températures qui ne bougent pas, donc jusqu'à vendredi inclus, avec 22 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 à 27 pour la moitié sud.
Merci beaucoup, Valérie Quintin. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Et c'est l'heure dont on refait les jeux avec vous, Jean-Michel Rascol et Marie Portolano. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, il fait moche partout. C'est...
Et Teddy Riner, il est content alors finalement. Je viens d'entendre un extrait de votre interview.
Exactement,
finalement.
Nous l'avons
il
eu.
Est fier de cette médaille de bronze.
Il est très content, vous allez voir. Il a une très très bonne attitude.
On l'entend dans un instant avec vous. A tout de suite sur RTL.
RTL,